Vous les connaissez par cœur et j'enseigne. Je vous rappelle simplement, en revanche, les quatre œuvres dont on a déjà parlé pour se remettre un peu dans le bain de notre cycle. Vous rappelez que la première œuvre, c'était une œuvre du XIIIe siècle, venant de Pricane, une œuvre donc angkorienne, évoquant la statuaire monumentale au Cambodge au XIIIe siècle. La deuxième œuvre était cet élément qui était sans doute un élément de support de bannière sur le haut d'un stupa réalisé au Pakistan au 1er siècle de notre ère et qui a été pour nous l'occasion d'évoquer la vie de Bouddha. La troisième œuvre que nous avons regardée, et ça cette année, c'est ce Lowan, c'est-à-dire cette ermite, pourrait-on dire, qui nous a permis d'aller en Chine au milieu du Moyen-Âge, pourrait-on dire, mais qui nous a permis aussi de voyager un peu dans d'autres contrées d'Orient pour voir cette question de ces sages, pourrait-on dire, que sont les Lowan. Et puis, la dernière fois, vous vous rappelez, nous sommes allés en Indonésie, à Java, et nous sommes intéressés, à partir de cette marionnette, du Wayang Kulit, au théâtre d'ombre javanais, mais aussi balinais. Enfin, Java est quand même l'épicentre avec ce Gunungan, c'est-à-dire une sorte d'arbre dont j'ai d'ailleurs oublié de vous dire, on a parlé de beaucoup de choses, on a vu plein de marionnettes, vous vous rappelez, mais j'ai oublié de vous dire que cet arbre-là, qui est un élément presque de décor, est un élément que l'on mettait dans le théâtre avant que la représentation débute, vous savez, cette longue représentation qui dure des heures et des heures, de tard le soir à tôt le matin, voilà. Et donc, c'est cet élément, le Gunungan, qui est planté, si j'ose dire, sur l'écran, avant même le début de la cérémonie, et qui, au moment où il y a quand même des petites interruptions qui ne sont pas complètes, il y a toujours de la musique et autres, revient, une sorte d'élément un peu permanent qui ouvre et qui ferme la séance, d'où d'ailleurs la porte que vous voyez là, quelque part, permet d'entrer dans la représentation. Bien. Voilà donc les quatre œuvres que nous avons regardées et qui nous ont permis de naviguer dans cet Extrême-Orient, décidément très très divers. Alors, je vous propose qu'aujourd'hui, avec cette cinquième séance, nous entrions dans un nouvel univers extrême-oriental, et nous allons nous intéresser à l'œuvre que voici. Alors, maintenant c'est à vous, j'aimerais que vous me disiez de quoi il s'agit. Comme d'habitude, on va commencer par des questions très pratiques. C'est quoi, physiquement, cet objet-là? Ensuite, on va voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que ça représente. Et peut-être enfin, avoir une idée de l'endroit où ça a été réalisé, peut-être, à peu près à quelle date. Alors d'abord, physiquement, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cet objet que vous avez sous les yeux? C'est une estampe. Et effectivement, elle est japonaise. C'est bien, d'un coup on a en effet un petit peu une idée de ce qu'il s'agit. Par estampe, vous voulez dire quoi? Pardon. Voilà, c'est effectivement une œuvre reproductible qui est imprimée sur papier. Le mode. Alors, on ne va pas rentrer dans des questions trop techniques, qui sont de toute façon parfois extrêmement compliquées. Dans l'univers de l'estampe japonaise, mais quand même, ce type d'estampe est fait comment, à partir de quoi?
Gravure sur bois.
Voilà, c'est de la gravure sur bois. Comment est-ce qu'on peut appeler ça en un mot qui résume un peu tout?
Xylographie.
Voilà, c'est une xylographie. On a, il y a quelques années, certains d'entre vous ont peut-être participé à cet atelier, travaillé sur la question de la gravure, et on avait évoqué la question des gravures sur bois. On est donc là devant une xylographie. Bien. Une gravure sur bois. Cette estampe sur papier, cette xylographie, que représente-t-elle? Que voyez-vous?
Une femme. Un arbre, une branche.
Un arbre, une branche.
Cerisier.
Oui, peut-être. En tout cas.
Une lanterne.
Elle a effectivement une lanterne, oui. Donc il y a une femme, une lanterne, une branche d'arbre, sans doute un cerisier.
Elle est sur un pont.
Elle est sur une sorte de pont. Pardon ?
Une passerelle, non ?
Ou une passerelle, peut-être.
Une terrasse ?
Ou une terrasse.
Et à droite, qu'est-ce que c'est que ce...
Il y a un fragment de...
C'est quoi, ça ?
Une falaise ?
droite. Oui.
Je pense qu'il y a deux solutions. Enfin, moi, je pense surtout à une, mais...
C'est une sphère.
Une
sphère.
Une sphère. Un élément d'une sphère, peut-être.
Ou un autre personnage dont on ne voit que le bras. Ou c'est le reflet de sa lanterne.
Le reflet de sa lanterne. Sur quoi ? Le halo.
Bizarre.
Bon, c'est pas... Oh, je crois que c'est assez simple, en fait.
Ouais. Une falaise.
Alors, je crois qu'il y a deux solutions, mais je crois surtout que c'est le tronc de l'arbre. C'est-à-dire que c'est un arbre, si vous voulez, qui est hors du cadrage, hein, qui est par là, qui tourne, qui va retourner, et puis voilà, c'est pas un arbre tout droit, hein, c'est un arbre qui a une forme. Hein. L'autre solution étant effectivement une sorte de brochet, mais vraiment, je crois que c'est beaucoup plus le tronc de l'arbre. Hein, quand on voit la texture, elle rappelle beaucoup celle de la branche. Je pense que c'est le tronc de l'arbre, simplement, il est coupé, c'est-à-dire par le cadrage de la
feuille. Et en haut, une bande.
Oui.
Nuage.
Oui, en tout cas une nuée. Ouais. Ouais, ouais. 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 Bien. Et c'est tout.
Mais qu'est-ce qu'elle fait là?
Oui, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ça raconte?
Bah, c'est quand même la nuit.
Ah, c'est la nuit. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a une lanterne. Enfin, vous pouvez porter une lanterne le jour. Hein. Mais c'est la nuit, effectivement. Hein. Donc, on est la nuit, il fait noir. Hein, voilà. Sauf qu'elle a une lanterne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que, d'accord, il y a une femme, il y a une lanterne, elle est sur un pont, une terrasse. C'est la nuit, elle regarde.
Elle cherche à voir quelque chose.
Oui.
On
peut
imaginer une deuxième estampe en pendant avec un autre personnage.
Alors,
c'est
pas tout à fait faux. On pourrait tout à fait imaginer qu'il y a une deuxième estampe qui vienne compléter la première. Hein. C'est d'ailleurs souvent le cas. Hein. Souvent, on voit des estampes, et en fait, il y en a une deuxième qui vient. C'est pas toujours le cas, mais c'est quelquefois le cas. C'est pas le cas ici. Donc, cette estampe est bien seule. Hein. En tout cas, même si elle était faite pour être associée à une autre, elle se suffit à elle-même, si vous voulez. Hein. Mais c'est intéressant quand même cette histoire que vous avez évoquée de ce tronc qui est coupé, hein, ce qui évidemment peut nous interroger, nous occidentaux, un peu.
Elle éclaire les fleurs.
Et pourquoi faire?
Elle cherche quelque chose. Ça serait pas une fête quelconque, une fête du cerisier.
Une fête du cerisier. Ou bien elle cherche quelque chose dans l'arbre.
Un oiseau.
C'est un geste qui.
Attirer les insectes pour polliniser les fleurs.
Ah, elle attire les insectes pour que les fleurs soient pollinisées par eux. Donc, soit c'est une fête, hein, soit c'est qu'elle est en train de chercher un oiseau qui peut-être chante dans l'arbre, d'où il y a des oiseaux qui chantent la nuit, hein. Ou alors, de manière très pratique, elle est en train de faire en sorte que les insectes soient attirés peut-être par la lumière et aillent de fleur en fleur plus facilement. Vous avez d'autres idées, peut-être?
Si elle fait la fête, elle est vraiment toute seule. Hein.
Ah, il y a peut-être d'autres gens ailleurs qui ne sont pas montrés là. On peut faire la fête tout seul. En ce moment, on fait pas mal la fête tout seul.
En ce moment, c'est assez
tendance.
C'est religieux.
Est-ce que c'est pas rituel?
Alors, un rituel, quelque chose de religieux, hein, ça recouperait un peu d'une fête quelconque, oui, peut-être. Oui. Hein. Ouais. Donc, un rituel. Oui. Je sais pas, vous avez une préférence pour une de ces versions, un rituel, quelque chose de religieux, une fête, une volonté d'attirer les insectes, ou bien le fait de regarder quelque chose qui est dans l'arbre?
Un rituel de printemps.
Oui. Un rituel de printemps.
La fête du cerisier.
La fête de?
Du cerisier.
Du cerisier. Oui, d'autres idées ou non? C'est déjà pas mal, hein? C'est bien. Ben, en fait, c'est un peu rien de tout ça, si j'ose dire. Et c'est quand même un peu aussi. Enfin, j'aurais envie de dire que dans cet instant, il ne se passe rien d'autre que ce que vous y voyez. C'est-à-dire une femme qui regarde des fleurs.
D'accord. De nuit.
De nuit. Bon, c'est tout.
Donc elle a besoin d'une lanterne.
Pardon?
Elle a besoin d'une lanterne.
Voilà. une femme qui regarde les fleurs, qui pousse sur un arbre, les nuits. Quoi ? C'est-à-dire que c'est rien, mais en fait, c'était tout. C'est ça, le but. Vous savez, les estampes japonaises, et on va en voir un certain nombre aujourd'hui, puisque vous l'aurez compris, hein, oui, cette séance va être consacrée aux estampes japonaises, eh bien, les estampes japonaises rappellent peut-être un autre art du Japon que vous connaissez, et qui est justement cet art de faire tout avec rien. Vous savez comment on appelle cet art-là ?
Non.
Qui est un art littéraire, qu'on appelle les haïkus.
Ah,
les petits poèmes. C'est quelque chose, ça ?
Oui. Hein ?
Les haïkus sont des poèmes,
oui,
voilà, qui sont des petits poèmes très courts, hein, qui peuvent être composés que de quelques mots, et qui disent très peu de choses, mais qui en disent si peu qu'en fait ils sont extraordinairement ouverts et vraiment poétiques. Haïku, ça peut être... Je vais vous faire des haïkus, là. Hein. Et pour le même prix. Hein. Il n'y aura pas de supplément. Hein. Alors, hein, ça vaut la peine d'être invité. Hein.
On n'applique pas.
Ça peut être, et je me jette, hein, ça peut être « L'eau tombe sur le sol rouge ». C'est très beau, ça.
Ah. Hein.
Ou bien « Une feuille est là qui vole entre les arbres ». Bon. Très très beau, très simple, ça dit rien. Et en fait, ce rien ouvre tout. Parce que pourquoi le sol est rouge ? Et pourquoi de l'eau tombe dessus ? Il pourrait y avoir une paillarde de l'eau. Enfin, vous voyez, à partir de quelques petits éléments, quelques petites notations, l'idée est à partir de rien d'ouvrir sur tout. De faire des petits riens qui sont ceux de l'univers qui nous entoure, une ouverture sur toutes les beautés du monde. Les haïkus, c'est ça. C'est des petits riens qui font tout. Alors bon, moi je ne suis pas non plus un maître du haïku. Hein. Les maîtres du haïku, sont des... parce que tout ça a l'air très simple et répond en fait à des conventions, des traditions qui vont au-delà de ce que je viens d'inventer là en deux minutes. Hein. Mais l'idée, si vous voulez, c'est celle-là. Encore une fois, à partir de très peu de choses, d'en dire finalement beaucoup. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus ravissant, magnifique, formidable, passionnant qu'une femme qui regarde la nuit des fleurs. Alors évidemment, nous, en Occident, c'est pas notre genre. Hein. Nous, il nous faut la Vierge qui monte au-dessus avec 50 ans, j'ai pris les atomes par terre, ou bien il nous faut une bataille de Louis XIV, ou alors l'assassinat de César. Alors là, il nous faut du lourd, quoi. Eh bien, au Japon, non. Au Japon, une femme qui regarde des fleurs, c'est de l'art. Vous voyez ?
C'était bien la peine
qu'on
se casse la tête,
alors
à trouver des...
Absolument, exactement. Donc on va, c'est tout à l'heure. Aujourd'hui, finalement, on va un peu se laver de cette culture occidentale où on veut trouver absolument des tas de choses à l'intérieur de tout pour essayer de voir comment des choses très simples peuvent finalement ouvrir sur des choses extraordinaires. Vous allez voir que finalement, ce que je vous dis n'est pas si vrai que ça. Et que derrière ces choses qui ont l'air si simples, il y a quelquefois des choses très très compliquées. On va essayer d'explorer finalement... Sinon, tous les champs de l'art des estampes japonaises, mais en tout cas, essayer d'entrer un peu dans ce monde qui est un monde magnifique, très complexe, et qui va nous permettre de comprendre un peu comment cela fonctionne. Alors, je voudrais quand même donner un peu le résultat des courses. Hein. Cette œuvre est donc une estampe d'un artiste qui s'appelle Suzuki Harunobu. Hein. Suzuki Harunobu est un des grands maîtres de l'estampe japonaise, de ce qu'on appelle l'époque d'Edo, l'époque de Edo. Edo, vous savez ce que c'est que Edo ?
C'est l'ancien Tokyo.
C'est l'ancien nom de Tokyo. Voilà, c'est Tokyo. Hein. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Tokyo s'appelle aujourd'hui Tokyo, mais avant, c'était Edo. Bon. Et c'est comme Saint-Pétersbourg qui s'est appelé Leningrad, etc. Voilà. Et donc, l'époque d'Edo, c'est une époque du Japon. Vous savez à quelle période, à peu près, correspond l'époque de Edo, l'époque d'Edo ? Non, c'est une époque qui, en gros, commence au début du XVIIe siècle et qui se termine à la fin du XIXe. Hein. Début XVIIe, fin XIXe siècle, c'est l'époque d'Edo. C'est une des grandes phases de l'histoire du Japon. Et c'est une période où l'art de l'estampe va beaucoup, beaucoup se développer. Et donc, Harunobu est un des grands maîtres de cette période. Et donc, vous voyez là une femme qui contemple les fleurs de prunier la nuit. Et c'est une estampe qui est datable des alentours de 1760. On est donc dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. OK ? En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça.
Ah, bah oui.
Je pense que c'est clair.
Bah oui.
Hein, hein,
c'est tout à fait clair. Je vais vous passer ça parce que c'est très beau. C'est pas parce qu'on ne comprend pas une langue ou qu'on comprend pas les cryptogrammes que c'est pas beau quand même. Donc je trouve que c'est très important aussi de voir ça. Regardez comme c'est beau. On n'y comprend rien. On va en comprendre quelque chose dans un instant. Hein. Ça, ça veut dire ukiyo-e. L'ukiyo-e, c'est un courant artistique japonais de l'époque d'Edo. Vous savez à quoi ça correspond? C'est début 17e, fin 19e, qui s'appelle Image du monde flottant. Image du monde flottant, c'est un courant artistique japonais. Nous, on a les impressionnistes, on a le néoclassicisme, on a le baroque. Et bien, au Japon, il y a l'ukiyo-e, c'est-à-dire l'image du monde flottant. Et bien, l'image du monde flottant, c'est un courant artistique japonais, 17e, 19e, qui a beaucoup développé la gravure, l'estampe, plus précisément en bois, enfin, faite à partir de planches de bois, hein, et c'est ce monde-là, cet univers-là, que nous allons voir aujourd'hui. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des artistes que nous allons voir aujourd'hui que vous connaissez ou dont vous avez vu des estampes.
Hein.
Par exemple, absolument. Hokusai est un des grands maîtres de cet art, hein, de cette image du monde flottant. C'est parce qu'il y a Haiku, ce nom d'ailleurs de courant artistique, hein. Image du monde flottant. C'est magnifique comme
nom. Et l'écriture est horizontale ?
Elle peut être verticale aussi.
Au départ, elle était verticale.
Ouais, oui, voilà. C'est ça. Et puis, quelquefois, vous avez les deux. Hein. Mais les deux sont possibles. Hein. Alors, on va explorer ce monde, cet univers du ukiyo-e, c'est-à-dire des images du monde flottant. Et ce que je voudrais qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être pas tant d'ailleurs qu'on aligne les noms d'auteurs. Il y en a certains que vous connaissez, Hokusai, vous venez d'en parler, hein. Il y en a d'autres. Hein.
Et
que vous... Voilà, absolument, Hiroshige, hein, qui est un autre de ces artistes. Il y en a donc plusieurs qu'il est bon de connaître. Mais on va surtout essayer de voir quel est le répertoire qu'il a exploré. On vient d'en avoir un exemple. Un répertoire qui montre simplement une jeune femme qui est en train de regarder des fleurs. On va voir quand même d'autres choses un peu autour de ça. Mais on va essayer de comprendre de quoi le répertoire de ce courant, l'ukiyo-e, est fait. Prêt ? Go ! Qu'est-ce que vous voyez là ? Encore une fois, on ne va plus parler de technique, ou quasiment plus. C'est à chaque fois de la xylographie, ok ? Alors, de temps en temps, on aura peut-être à aborder des questions techniques quand même, hein, mais on va peut-être beaucoup évoquer les questions de représentation et de répertoire. Quel est le but de ces représentations? Qu'est-ce que vous voyez là?
Une dame. Bien habillée.
Bien habillée.
Qu'est-ce qu'elle tient? Un peu en mouvement.
Elle tient une lanterne.
Elle tient son vêtement.
Oui.
Son vêtement. Et l'autre bras, où est-il?
Alors, on voit une main là. Je pense que l'autre bras est sous ce pan de vêtement là. Parce que vous voyez qu'ici, il y a ce pan de vêtement qui correspond à ce bras, donc voilà la main. Et je pense que l'autre bras est là, qui soulève ce pan de vêtement qui correspond à celui-là. Vous me suivez?
Oui.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire d'autre concernant cette œuvre?
Mais les couleurs sont d'abord franches et contrastées.
Oui, absolument. Couleurs franches et contrastées.
C'est pas un costume de tous les jours.
C'est pas forcément un costume de tous les jours. Hein. On voit qu'on a quelqu'un là. Qu'est-ce que vous diriez d'autre?
Alors, l'inscription à droite, évidemment.
Oui.
Avec en bas, c'est la marque du graveur, probablement.
Oui, alors il y a effectivement une inscription, et en bas, il y a une sorte de cachet, de sceau. Ce sceau, ça peut être quoi?
C'est le nom d'auteur.
Ça peut être le sceau correspondant à l'auteur. Donc l'auteur a son tampon, il tamponne ce qu'il a fait.
Mmh. La personne représente de la personne représentée.
Alors, ça peut peut-être l'être. Notez que, à votre avis, le titre de l'œuvre, si titre il y a, il serait où ?
Dans le gré divin.
Voilà, c'est, vous avez une écriture. Alors, moi, je ne lis pas jamais du tout, hein, donc je suis tout à fait incapable de rien dire, mais la colonne de Zeng, que vous voyez à droite, peut bien être, effectivement, le titre donné par l'auteur à cette œuvre. Hein. Donc là, vous avez vraisemblablement le nom de l'œuvre. Hein. Par parenthèse, vous parliez d'un cachet, oui, mais il y en a même un deuxième. On a ici un autre là. Hein.
Oui. Il y a peut-être le graveur et l'auteur.
Donc il y aurait l'auteur et le graveur. Oui, ça, vous connaissez ça dans la gravure française. Hein. Oui. Quand vous regardez les gravures en France, hein, du 7e, 18e, vous en avez des tonnes chez vous, je suppose. Hein. Je vais vous regarder. Hein. On voit à droite le nom de l'auteur, celui qui a fait le dessin, etc. Et à droite, celui qui a fait la gravure. Parce que c'est pas tout de faire une gravure. Enfin, gravure, ça se fait pas comme ça. Ça se fait à partir d'un dessin ou d'une peinture. Hein. Donc, généralement, sur les gravures faites en France au 17, 18e siècle, il y a en bas plutôt, en bas à gauche, mais pas toujours, le nom de l'auteur de la composition, par exemple, le dessinateur ou le peintre, et à droite, le nom de l'auteur de la gravure, celui qui a fait. Enfin, qui a fait la gravure d'après le dessin original, ou d'après la peinture originale, d'ailleurs. D'accord ? Donc là, on pourrait peut-être avoir la même chose. Est-ce que ça peut être encore autre chose ?
Le type de papier qui a été utilisé ?
Ça peut peut-être être ça. Hein ? Quoi d'autre ?
Nombre d'exemplaires ?
Non ? Nombre d'exemplaires, pourquoi pas ? En fait, vous avez saisi la chose, c'est-à-dire que on a toute une série d'inscriptions, soit manuscrites, hein, qui sont faites dans la planche de bois, si vous voulez, hein, soit tamponnées une fois que la gravure a été réalisée, et qui sont là pour des raisons techniques. Hein. Ça peut être aussi des tampons administratifs. Hein, parce que, ah oui, on parle d'administration française, qui est vrai, remarquable. Bon, dans sa simplicité, vous l'avez remarqué. Hein. Mais on n'est pas le seul au monde. Au Japon, on aime beaucoup tamponner, retamponner. Il faut qu'il y ait le contrôle de ceci, le contrôle de cela. Alors, quelquefois, vous avez, mais dès les époques anciennes, hein, des quantités de tampons qui viennent, j'allais dire, accompagner l'œuvre et montrer de quoi il s'agit. Tout ça est cadré, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas une estampille, hop. Hein. Il y a des tampons. Hein. Il ne peut pas y en avoir, mais il y en a aussi. Bien. Très bien. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à remarquer encore dans cette œuvre ? Donc, c'est une femme bien habillée, avec un vêtement qui n'est pas un vêtement de tous les jours, dirons-nous. Hein. On a remarqué, effectivement, dans l'œuvre, la présence de ces écritures, qui peuvent être à la fois le titre, mais aussi des tampons qui peuvent être des tampons administratifs qui accompagnent l'œuvre. Ça vous étonne pas, ça ? Ou même si tu es en France, des gravures, ou des peintures, ou des dessins, où il y a des tas de tampons comme ça ? Ben non. Non.
Alors, on trouve quelquefois dans le cachet du musée.
Alors, bien sûr, on trouve absolument, souvent dans les dessins, un cachet alors qui souvent est le plus discret possible, hein, c'est-à-dire tout petit, qui est le cachet de la collection du musée, absolument. Hein. Par exemple, le musée du Louvre, c'est un petit ML dans un ovale. Hein. Si vous voyez un dessin passer avec ML, dites-vous que c'est un dessin qui appartient au musée du Louvre. Alors, généralement, c'est tamponné, tout à fait dans un coin le plus discret possible pour pas. Mais au Japon, c'est pas le problème. Au Japon, on peut avoir un tampon. Vous voyez, là, il est pas pif sur la tête de la figure. Hein. Enfin, il est quand même très visible. Hein. Et ça, c'est une chose qui entre dans l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire, hein. L'écriture, c'est un élément qui fait partie de l'œuvre. Hein. Vous savez, quelquefois en France ou en Occident, hein, les signatures sont pas très visibles. Hein. Il faut souvent une loupe pour regarder quand il y en a. Hein. Alors, c'est qu'on trouve que l'écriture, c'est pas toujours un élément qui. Au Japon, l'écriture, la signature, le titre de l'œuvre fait partie de l'œuvre. Hein. Est-ce que vous pouvez me citer des peintures en France, par exemple, hein, anciennes, où il y a le titre de l'œuvre qui est peint dans l'œuvre ?
Oh ben ça arrive, oui, on en a vu.
Alors, à quelle période plutôt ?
Dans les 16e.
Voilà. On peut avoir au Moyen-Âge ça.
Hein. Vous savez, plus on caché, plus
voilà, alors on a souvent au Moyen-Âge en France ce qu'on appelle des phylactères ou des banderoles, ça dépend si l'œuvre est religieuse ou pas, qui évoquent, qui dit, par exemple, dans les annonciations, hein, où la parole de l'ange à la Vierge est indiquée dans le phylactère, hein, ou l'inverse, par exemple. Hein, voilà. Et Cilia Domini, enfin vous connaissez tout ça. Hein,
voilà. Duccio qui avait fait un. Duccio, il a.
Par exemple, par exemple. Tout à fait, on peut trouver tout à fait ça, en tout cas dans la peinture médiévale européenne. Hein. Mais c'est vrai que très vite, en gros, à partir de plus ou moins la Renaissance, la peinture vraiment est faite pour elle-même, et l'écriture en est un peu bannie. Hein. C'est-à-dire la peinture, c'est un jet pictural, les éléments d'écriture n'entrent pas dans l'œuvre elle-même. Au Japon, si. L'écriture fait vraiment partie de l'œuvre. Hein. Il n'y a pas d'autre chose que vous auriez à dire sur, la façon dont l'œuvre se présente.
La femme ne nous regarde pas. Elle
oui,
regarde,
absolument. Oui, oui.
À l'extérieur.
Derrière. Pardon, elle regarde derrière, oui.
Puis le vêtement représente, peut être en soi broché, décoré.
Oui.
Il est riche.
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant, alors vous avez remarqué que c'est un vêtement riche, qui n'était vraiment pas un vêtement d'une personne, j'allais dire, de basse extraction. Hein. Vous avez remarqué que la personne était... se retournait, avait un drôle de visionnement, ce qui permet justement aux vêtements d'avoir la richesse que vous voyez, serrer les pas, plop devant vous, les bras ballants, non, avec le vêtement prout, qui tomberait, elle est de telle manière qu'il y a des plis dans tous les sens, qu'il y a des plis qui se retournent, qui fait que cette sorte de vêtement rouge qu'elle a sous le manteau est visible, parce que si elle était devant vous comme ça, avec le manteau tout droit, on ne verrait pas la double rouge en dessous. Vous voyez ce que je veux dire,
hein. La tête regarde,
elle a quelque chose.
Voilà, c'est-à-dire que elle a quelque chose.
Elle a quelque chose dans la main. Moi,
j'aurais
pas. C'est le pan du vêtement.
C'est le pan du vêtement.
Alors le pied va vers la droite et la.
Voilà, c'est-à-dire que l'idée finalement qu'il y a une sorte de contorsion de la figure. Pour que, parce que, encore une fois, vous pouvez imaginer représenter une personne debout face à vous avec les vêtements qui tombent. Hein. Seulement, c'est moins passionnant que si vous les mettez un peu dans tous les sens et que le vêtement s'ouvre, fait apparaître dessous, le dessus, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, parce que normalement, ce rouge-là n'apparaît pas. Il apparaît parce que là, elle est en train d'ouvrir le manteau, ce qui fait que vous voyez même un personnage qui est brodé à l'intérieur du manteau. Enfin, voilà. Donc, il y a une volonté à partir de rien. Parce qu'il n'y a rien de plus simple que de présenter une femme en habit. Ou un homme, d'ailleurs. Hein. Vous plantez quelqu'un, point. Pour faire de ça, de cette figure, comme il y en a des milliers d'autres, quelque chose de plus intéressant, on lui donne une position, elle regarde derrière alors qu'elle va devant, enfin, qui modifie complètement l'architecture de son manteau, et qui fait que de ce rien, on a tout de suite beaucoup plus. Ok ? Cette femme, c'est quel genre de femme ?
Alors, est-ce que c'est une femme célèbre ?
Femme célèbre ? C'est quoi une geisha ?
Ah, c'est
une geisha.
Une dame de plaisir, une dame de compagnie.
Une dame de compagnie, une dame de plaisir, mais encore.
Oui, mais pas de bas étage.
Ah, mais pas de bas étage.
Non, 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 non. Une société, elle est cultivée. Non.
Voilà, c'est donc une femme cultivée, mais une femme de plaisir. Hein ?
Oui, parce que ça pourrait être une gravure de mode aussi.
Alors, vous ne croyez pas si bien dire. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes là. Alors, on va tout de suite regarder le titre de cette œuvre. Hein. C'est une œuvre qui s'appelle « Une beauté hein. ». Elle représente effectivement... Alors là, la geisha est anonyme, mais une geisha, c'est-à-dire une de ces femmes de plaisir qui vivaient dans des quartiers réservés, hein, mais que l'on visitait pour des raisons... très corporel, nous allons dire, hein, mais également très intellectuel. Ce sont des gens qui ont une éducation, qui savent chanter, faire de la musique, écrire, peut-être peindre, faire du théâtre, enfin, il y a des tas de choses, et qui appartient à une certaine société assez huppée, si vous voulez, du temps. Hein, voilà. Et elle est donc représentée, vous le voyez, avec un très beau vêtement. Parce qu'une geisha, ça s'habille pas n'importe comment. Vous notez que c'est une xylographie colorée. C'est-à-dire, quelquefois, les xylographies, on fait une xylographie parce que quand on imprime, on a du noir sur blanc, et on les colore à la main après. D'accord ? Mais on peut aussi imaginer alors, d'autres planches, en bois, hein, qui correspondent à la première, et qui sont elles-mêmes colorées. Donc, on imprime les couleurs. Les deux sont possibles.
Une planche par couleur.
Une planche par couleur.
Et hein. La planche de base.
Voilà, c'est ça. Mais là, c'est une estampe colorée, c'est-à-dire qu'on a tiré l'estampe en noir sur blanc, et après on a coloré. Alors, regardons une autre. C'est-à-dire
deux petites dames.
Deux petites dames, que font-elles ?
Elles papotent.
Elle papote, mais encore.
Au bord de l'eau.
Au bord de l'eau, très bien.
Il y a beaucoup d'inscriptions.
Il y a beaucoup, beaucoup d'inscriptions. Donc là aussi, vous voyez comment le texte entre dans l'œuvre.
Oui, mais il a l'air en désordre, ce texte.
Oui, absolument. Ouais. Ça, ça fait partie des, j'allais dire, des licences artistiques, en l'occurrence. Hein. Là, le texte, c'est qu'il y a, en Extrême-Orient, en Japon en particulier, un art du texte, c'est qu'on l'appelle, et de la lettre même. Hein. C'est la calligraphie. Hein. Donc, le texte fait partie de l'œuvre, mais on ne fait pas un texte comme nous sur nos ordinateurs. Hein. Nous, gens très malins du 21e siècle, on est là, boum, 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 à taper, n'est-ce pas? Bon, il ne s'agit pas du tout de ça dans ces œuvres. Là, la lettre a un intérêt par elle-même. Hein. C'est ce que je vous posais tout à l'heure quand je vous ai passé Okuyi et en calligraphe japonais, enfin en caractère japonais plutôt, simplement pour regarder des choses qu'on ne comprend pas mais dont on apprécie la forme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, c'est le même but. Hein. Alors, sauf que les Japonais comprennent sans doute ce qu'il y a écrit, mais malgré tout, la forme des lettres doit avoir une qualité. En France, débarrasser de nos grosses visions occidentales un peu épaisses, hein, et être capable, si vous voulez, de voir dans la forme des lettres, la calligraphie, hein, une qualité esthétique. Vraiment, la lettre fait partie de la qualité esthétique de l'œuvre. Et alors, pourquoi ne pas, cette calligraphie, l'organiser d'une manière qui peut être là, effectivement, entre guillemets, désordonnée, pas forcément en ligne. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces deux petites dames? Elles papotent, vous m'avez dit, mais encore.
Il y en a une qui tient une petite fleur ou quelque chose comme ça.
Oui, une petite chose végétale. Il y a quand même un grand événement, là.
C'est une dame qui regarde à travers la barrière. Enfin, elle a la main, on peut imaginer qu'elle touche
la barrière. Il y a effectivement une barrière. Je ne crois pas qu'elle la touche. Hein. Elle n'est pas loin, mais elle ne la touche pas, je ne pense pas. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe.
Elle voudrait bien attraper la fleur, peut-être.
Ah, attraper une fleur, peut-être bien. C'est quoi, d'ailleurs, peut-être, ce que vous voyez là?
Des arbres.
Oui, quels arbres? Quels végétaux, je dirais plutôt. Des
bambous.
Des bambous. Ce
n'est pas très représentatif pour les bambous.
C'est pourtant le titre de l'œuvre.
Alors,
sont des bambous. C'est inscrit là-haut.
Ah bon?
Oui. Non. Mais il y a un événement.
Oui.
Attention, vous avez l'œil trop occidental. Hein.
Elle lui tient.
Débarrassez-vous de votre dire. Regardez vraiment. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de très important qui se passe. Mais que vous ne voyez pas, vous êtes trop en Occident encore. Débarrassez, quittez le Covid, la France. Allez en Orient, regardez l'œuvre. Regardez, il y a un événement fondamental. C'est qu'elles sont en train de regarder un oiseau qui est là. Et vous ne le voyez pas, ça. Alors, attendez, je vous montre deux filles qui regardent un oiseau et vous ne le voyez pas. Bon, ça ne va pas du tout, ça. Ouvrez les yeux, n'est-ce pas? C'est très bon. Vous avez là deux jeunes femmes qui regardent un oiseau dans les bambous. Ça, c'est très important. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Tout à l'heure, je vous montrais déjà une femme, la nuit, qui regarde des feuilles, des fioles, des pruniers. Et là, je vous montre, c'est quand même un événement sensationnel, deux femmes qui regardent un oiseau. C'est quand même très important. D'ailleurs,
elle
a vu l'oiseau et demande à sa collègue de le regarder.
Oui.
Le rossignol dans les bambous. Donc, je vous dis ça parce que c'est pour vous montrer qu'on est. Décidément, quand on regarde des cultures autres, et par exemple l'art japonais, et les images du monde flottant, il est important vraiment de changer de logiciel. Hein. C'est-à-dire que là, il ne se passe rien, sinon deux femmes qui regardent un oiseau. Mais est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel? J'aime bien que nous, les oiseaux, on les bousille. Bon, on va à la chasse, etc. Bien. Mais ce n'est pas que ça. On peut regarder un oiseau. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire de regarder un oiseau?
Eh
bien, c'est extraordinaire. Ah, mais si, on le voit. Il faut regarder. Là, on voit un tout petit rossignol qui est là. Alors, il est petit. Ah, il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Voilà. Donc, vous voyez, il faut... Voilà. C'est un non-événement pour nous, mais qui est, pour ce type d'œuvre, un événement majeur. C'est rien et c'est capital. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre... de Suzuki, Haru Nobu, vous savez celui dont je vous ai montré la fin en regardant les feuilles de prunier tout à l'heure. Alors, continuons.
Oui, mais alors le fond,
c'est joli. Ouais.
Fond marbré.
Ouais.
Il n'y a jamais d'hommes dans leur représentation.
Ah. Si, mais ça va être des.
Êtes-vous si sûr?
Je sais pas, on a donc des femmes.
Parce que là, c'est des femmes.
Non, il y a un homme et une
femme. Il y a un homme et une
femme. Et voilà.
Il y a une coiffure.
Eh oui, oui, oui. Attention, vous n'avez pas deux femmes là. Vous avez un homme et une femme. Décidément, il faut se enlever nos visions occidentales. Hein. Vous avez à droite un homme, à gauche une femme. Ben oui. D'abord, c'est marqué. Et ensuite. Ah là, non, on n'est pas tout à fait marqué. La coiffure non plus d'ailleurs. Hein. Évidemment, pour nous, cheveux longs égale femme, cheveux courts égale homme. Ben, on n'est plus en Occident.
On est en train d'étudier un texte.
Oui, absolument. Alors, vous avez, au départ, vous avez dit quelque chose qui était intéressant concernant le fond, qui est marbré. Hein. Alors, on a dit qu'on ne parlerait pas trop de technique, parce que alors, si on entre dans la technique, c'est très compliqué.
On joue sur la planche.
Voilà, c'est ça. Hein. Alors, en fait, il y a deux solutions. C'est-à-dire que on peut également... Alors, soit on joue sur la planche, c'est-à-dire que la marbrure est un élément... Voilà. Hein. On peut également, alors on verra tout à l'heure qu'il y a quelquefois des estampes qui sont tirées sur des papiers, par exemple des papiers micacés. Hein, des papiers dans lesquels on a intégré du mica et qui ont une brillance particulière. Vous voyez hein. Donc il y a mille possibilités. Est-ce que ça apparaîtrait en dessous du sang? C'est très simple, on prend un papier, on fait bim, puis c'est réglé. Non. Il y a la possibilité de jouer effectivement avec. La planche de bois elle-même, et je dirais la qualité des cernes qu'elle intègre en elle-même, mais aussi la possibilité de jouer sur des papiers sur lesquels on va imprimer, qui sont de nature différente. Qu'est-ce que ça peut représenter, à votre avis, ça?
Un monsieur qui...
Homme présentant un texte à une femme.
C'est ça.
Un poème.
Oui, c'est un poème. Hein. C'est un homme qui est en train de présenter un poème à une femme. D'ailleurs, la femme, vous la reconnaissez notamment à un détail.
Le hobby.
Oui, elle a la grande ceinture dans
le. Oui. Et puis un autre.
La ceinture.
Hein, le.
Sa robe.
La robe, oui.
Et ça, c'est quoi?
Un balai.
Un balai. Ah,
pas d'autre chose.
Oui.
Ah,
ça, c'est assez universellement partagé, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. On est assez doué dans ce domaine, nous autres humains, pour assigner à certaines personnes des tâches exclusives. Voilà. Vous remarquez, entre parenthèses, vous ne l'avez pas indiqué, mais comment les textes sont mis là. Hein.
Ah oui,
là, c'est vous voyez, hein. Là, vous voyez, ressentez peut-être plus qu'avant, comment les textes, voilà, ils pleuvent. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait vu une colonne de texte à droite, là, le texte est complètement partout, on a l'impression que ça pleut, effectivement. Hein.
Une colonne à gauche.
Oui.
Oui, mais c'est pas la même calligraphie.
Non.
Non, elle est une calligraphie molle.
Je... C'est ça. Il y a effectivement là une calligraphie molle en haut. Par contre, ici, une calligraphie bien plus structurée. Donc, vous voyez comment le texte est partie intégrante de l'œuvre. Hein. Ça, c'est vraiment une chose très extrême orientale et en particulier très, très japonaise. Alors, c'est intéressant cette œuvre aussi parce que, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est une œuvre de Haru Nobu, comme on en a déjà vu plusieurs, hein. Qui représente deux personnages, une femme et un homme, et qui en fait reprennent. Si vous voulez, l'œuvre que vous avez là est une œuvre qu'on pourrait presque appeler un conte, et qui reprend un autre conte qui évoque un moine et une nonne, enfin, c'est un petit peu compliqué. Et bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez là la représentation d'une histoire légendaire, si vous voulez, une sorte de conte japonais. Où en effet, un jeune homme poète montre son poème à une jeune femme. Voilà. Donc, dans notre petit catalogue qu'on est en train de former, des thématiques de ces images du monde flottant, là, on va dire, cette littérature légendaire tient une place très importante. Et alors là,
Un village.
On est à la campagne.
Un mont Fuji, là-bas.
Oui. Dans le fond, il y a le mont Fuji.
Dans les rizières, ça fait
des cultures en terrasse.
Il y a des cultures en terrasse, oui. Alors, par rapport aux autres œuvres que l'on a vues, qu'est-ce que vous diriez?
Alors, cette fois, le bleu arrive.
Oui.
Avant, on avait presque toujours du
rouge. Oui, absolument. Et au niveau de l'iconographie, encore une fois, quelle est la différence ou l'équivalence?
Ce sont des gens au travail.
Là. Oui, là, ce sont des gens au travail, donc on est...
Dans la culture paysanne.
Voilà, là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. On est très, très loin du domaine des lettrés, hein, que nous venons de voir dans cette épisode légendaire, hein, du jeune poème et de sa compagne. On est très, très loin de ces geishas habillés somptueusement d'habits magnifiques, hein, et qui vivent dans les quartiers réservés de certaines villes. On est à la campagne, hein, bien loin du mont Fuji, là-bas. Hein. Alors, qu'est-ce qui a intéressé, d'ailleurs, l'artiste ici?
Il y a plan.
L'espace.
L'espace, oui. Oui, la différence de plan, effectivement.
Et puis, peut-être les cultures en Espagne qui donnent un certain rythme.
Oui. Vous voyez à l'arrière, hein. Moi, il y a deux choses qui me frappent.
L'arbre planté là.
Oui. Qu'est-ce qui vous inspire?
Il est très japonais.
Très. Ça, c'est aussi très extrême oriental, hein. Dire, nous, un arbre, ben, un arbre, c'est un arbre. On en voit un arbre, c'est un arbre. Bon. Ça, c'est... Bon. Voilà. Eh bien, en Orient, c'est pas comme ça. Surtout pas au Japon. C'est-à-dire, un arbre, c'est un arbre, en soi. C'est un être, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un arbre comme ça, que nous, on trouverait un peu rachitique et qu'on couperait d'un coup de cisailleuse, hein, comme on le fait à la sortie de Chalon-Semont, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est merveilleux. Hein. À une époque, on nous dit qu'il faut arrêter de... On continue, mais on continue. Hein. Eh bien, là, non. C'est-à-dire qu'un arbre, aussi rachot qu'il est, est un être. Et d'une beauté telle qu'on l'admire. Et ça, nous, on ne sait pas faire, on ne sait plus faire. Et on les cilaille, les arbres. Hein. C'est-à-dire que là, on a deux arbres tout simples qui montent sur le ciel et dont l'ombre, vous rappelez de l'intérêt de l'ombre, on l'a vu dans le théâtre d'ombre à Java la dernière fois, hein, fait qu'en soi, on a là quelque chose de magnifique, si vous voulez. On a une espèce de graphisme des arbres qui se dessine sur le ciel. Hein. Ben, cette espèce de joliesse comme ça, de cette ombre portée, c'est quelque chose qui travaille beaucoup les sangs japonaises. Un peu, finalement, c'est une sorte de... On dirait presque des caractères, sauf que c'est des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait croire que les caractères sont une espèce de végétation flottante. Image du monde flottant, vous vous rappelez du titre de... et que les arbres deviennent même des caractères. Vous voyez? C'est une espèce de manière un peu parallèle de voir les choses. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'artiste qui a fait ça, il s'intéresse beaucoup à une dimension, je dirais, presque ethnographique.
Hein.
Oui, hein,
les personnages sont...
Voilà, c'est ça. On voit, les vêtements des personnages sont bien montrés, bien travaillés. Les fermes, vous voyez comment les maisons, vous voyez comment elles sont construites, avec cette couverture de chaume, ces éléments en faîtière, etc. Il y a, tout à l'heure, il s'intéressait à tous les détails du vêtement de la geisha. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de décrire, et j'allais dire de souligner les éléments ethnographiques qui font, je dirais, l'intérêt de cette œuvre. Quoi. Vous remarquez aussi qu'il y a quand même des petits problèmes tout à fait volontaires de perspective. Voilà, vous avez vu ça? Voilà. Là, vous avez une espèce de très grand monsieur qui est plutôt plus grand que les habitations qu'il y a. Voilà, donc... La perspective est tout à fait flottante. Ça nous rappelle quelque chose, ça. Hein? C'est de qui, ça?
Ah, c'est peut-être Hokusai.
Eh oui.
Il y a le mot Fuji.
C'est de Hokusai. Alors, un des noms, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, hein, que vous avez à retenir, c'est celui-là. Vous savez, les Japonais, vous leur dites Monet, vous leur dites Sisley, vous leur dites Gauguin, ils connaissent, hein. Nous, on n'est pas fichus en Occident de connaître un nom d'artiste japonais. On connaît quelques-uns, la preuve. Hein. Mais voilà, il y a des noms à connaître. Hein. Par exemple, Hokusai, c'est vraiment un nom à retenir. Hein. Hokusai, c'est un des très, très grands artistes de cette époque d'Edo. Il est donc spécialiste de ces images du monde flottant, hein, de ces gravures, si vous voulez. Et c'est vraiment, avec peut-être Hiroshige, qu'on verra également tout à l'heure, un des artistes dont il faut garder le nom. Quoi.
C'est celui qui a fait les dessins de mer?
Et bien, absolument. Hein, tout à fait. On en verra d'ailleurs tout à l'heure. Hein. La fameuse vague, hein, que l'on verra bien sûr. Absolument. Hein. Tout à fait.
Un homme.
Un homme de la haute société, oui. Pardon ? Oui, et puis il a un vêtement qui est avantageux, voilà.
Ou une superposition de vêtements.
Oui, voilà, qui épaissit un peu l'affaire. Hein.
Il y a un arbre.
Oui.
Il est au bord de l'eau.
Oui.
Il y a des canards, non ? Des, je sais pas quoi, des grenouilles. Des...
Oui, il y a une grenouille.
Des grenouilles, ouais. Il y a le tampon.
Oui, il y a un tampon.
Une lecture en à droite.
Ah oui, il faut quand même qu'on soit dans les règles.
Hein. Ah, puis les chaussures particulières.
Oui. Oui, oui, chaussures élevées. Ah, bah oui, il faut quand même pas ramasser la boue qu'il y a par terre. Hein. Mm-hmm. Donc on a le portrait d'un homme d'un certain niveau, qui a un beau vêtement ample, dirons-nous. Hein. Il est sous une sorte d'ombrelle. Voilà. Ce personnage, c'est quel genre de personnage ? Peut-être ? C'est un paysan, comme dans la vue d'avant. Ah bon ? Non, ah mais là, il faut me le dire, moi je suis incapable de le dire. Alors, là, si vous ne me dites pas, je
vous comprends.
Donc c'est pas... Alors, c'est un homme. Pardon ?
Un rentier.
Ou un rentier ? Peut-être ? Peut-être.
Il y a une coiffe.
Oui.
C'est quoi ? C'est sa coiffe ? C'est un bonnet.
C'est au-dessus de la tête.
Oui, ouais.
C'est une coiffe qu'il a, hein, une sorte de grand bonnet, assez vertical.
Une disproportion entre la main et le visage.
Oui. Mmh. Oui, regardez, la main, elle est tout à fait petite. Hein,
oui.
Alors que le corps et le visage sont beaucoup plus grands. Mmh. Ça ne nous étonne pas trop, surtout quand on a vu les stampes précédentes. Rappelez-vous, c'est un nom de Hokusai. Mmh. On a vu un grand personnage à côté d'une maison qui, pourtant, sont plus proches de nous, qui sont plus petites. Donc, les proportions, ça... Alors, vous avez dit que c'est un personnage sûrement important, etc. Peut-être un rentier, ou en tout cas un personnage qui a une main. Autrement dit, ce genre d'œuvre que vous avez là appartient à quel genre, justement, de l'art ? C'est un portrait. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous aviez par exemple une geisha, mais qui n'était pas nommée. C'était une geisha. Hein, comme on présente, je vois, une paysanne, une bourgeoise, ou je ne sais pas quoi. Hein. Là, c'est un portrait. C'est le portrait de quelqu'un. C'est-à-dire que dans ces images du monde flottant, on présente aussi bien des scènes qui ont l'air très anodines, mais qui en fait disent beaucoup de choses. Une femme qui regarde les fleurs d'un prunier, des femmes qui se montrent un oiseau. On montre des scènes campagnardes, hein, où on aligne les éléments ethnographiques. On montre des types sociaux, une geisha. Mais on fait également des portraits. Ça. Alors, vous avez bien vu, hein, c'est un personnage important, c'est un personnage qui appartient à la haute société. Là, en l'occurrence, c'est un portrait, mais un portrait rétrospectif d'un calligraphe. On a parlé de la calligraphie tout à l'heure. Hein. On a vu à quel point la calligraphie est importante. Et ça, c'est un calligraphe qui a vécu au Xe siècle, dont notre Harunobu, précisément, est en train de nous faire le portrait, un portrait rétrospectif. Donc, vous voyez que dans ce répertoire des images du monde flottant, il y a aussi des portraits.
Mais rien ne dit que c'est un calligraphe quand on le voit.
Ben, c'est peut-être, je suis incapable de le dire, hein, mais c'est peut-être dit dans la colonne qui est à droite.
Les colonnes à droite, là, elles disent toujours la même chose. Les trois derniers caractères, c'est toujours les mêmes.
Oui.
C'est des caractères chinois, donc je les connais un petit peu.
Oui.
Le dernier, c'est roi, qui veut dire image.
Oui.
Celui d'avant, c'est veut dire lettre. Celui au-dessus, c'est chun, c'est le printemps.
Ouais.
Après, j'arrive pas à lire. Mais peut-être le premier, c'est l'or, jin. Je suis pas sûre. Hein. Et dans les autres estampes, on avait toujours les chunierois, et ils y étaient tout le temps.
Ils étaient tout le temps. Donc ce serait une sorte de répétition, ouais. Alors, d'une sorte de...
Ça veut peut-être dire quelque chose.
Peut-être. C'est possible. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces estampes, elles existent en plusieurs exemplaires. Hein. Donc, quelquefois aussi, il y a des exemplaires qui ont pu être coupés, qui ont été rognés, que sais-je encore. Hein. Et c'est aussi quelquefois par recoupement que l'on peut savoir si, par exemple, un exemplaire a été rogné, ce qu'est l'œuvre d'après d'autres exemplaires plus complets, qui, eux, n'ont pas été rognés. voyez. Alors.
Ah, ça fait rouge. Non, lui.
Ouais. Ça, elle est effectivement très connue. Donc ça représente quoi ?
Un pont.
Un pont.
Avec des personnages.
Oui, avec des personnages qu'on a vu, effectivement. Hein. Qu'est-ce qui vous frappe, encore une fois, dans cette œuvre ?
Il pleut.
Il pleut.
Il pleut, oui.
Donc, effectivement, vous voyez que... Enfin, ça montre quoi, ça ? Parce qu'encore une fois, par exemple, citez-moi des œuvres qui, dans la peinture occidentale, représentent la pluie.
Oh, si, au 19e siècle,
je ne sais plus. Au 19e siècle. Qui, par exemple ?
Caillebotte. Oui.
Est-ce que c'est un hasard ?
Ah, mais non, c'est une période où, justement, on se mettait à connaître les Chinois.
Eh bien, voilà.
Les Japonais.
Absolument.
Oui, oui, c'est vrai.
Exactement. C'est-à-dire que tout ce que je vous montre là, longtemps, a été quasiment inconnu en Occident. Et ces images du monde flottant ont commencé à arriver, puisqu'elles étaient produites en de très nombreux exemplaires. Puis ces artistes étaient incroyablement prolifiques. Hein. Hokusai, on connaît de lui des centaines de gravures. Hein. Des centaines. Hein. Sans compter les dessins et le reste. Hein. Et tout ça s'exportait. Et l'Occident, soudain, a découvert ça. Tilt. Ça fait vraiment un... Enfin, ça a beaucoup étonné. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, si des gens comme Caillebotte ont représenté, ou les impressionnistes, hein, des images de pluie, c'est parce qu'ils ont découvert ça.
Oui, mais c'est pas de la même façon. C'était les reflets de la lumière sur le sol mouillé.
Alors, il y a,
pas
y a,
la même chose.
Il y a aussi des images de pluie. Hein. Il y a aussi des images vraiment où on voit la pluie, où la pluie tombe. Alors, pas forcément uniquement chez Caillebotte, hein, mais je pense à un tableau de Sisley, par exemple. Hein.
Et puis la neige aussi apparaît.
Donc, voilà, aussi.
Les flocons de neige.
Absolument. Hein.
Et en particulier dans des gravures.
C'est ça. Et donc, si vous voulez, la représentation des éléments, qui n'est pas quelque chose que l'on voit dans l'art occidental de manière fréquente, hein, va en fait commencer au XIXe siècle en référence à ce que les images du monde flottant amènent en Occident.
Sauf les éruptions volcaniques.
Alors oui, ça, mais c'est moins climatique, si j'ose dire, mais vous avez raison, tout à fait. Alors, effectivement, donc, ce que vous voyez là, c'est... Enfin, on s'intéresse... pas simplement au paysage, mais, j'allais dire, à la climatologie du paysage. Des choses qui, encore une fois, ne sont pas trop dans l'esprit occidental. La preuve, c'est que l'Occident... Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, hein, c'est pas ça. Hein. On essaie seulement de voir les spécificités, hein, c'est différent. L'Occident va commencer à s'intéresser à ça, alors qu'il ne s'y était pas trop intéressé. Présenter la pluie, nous qui faisons la tête dès qu'il pleut trois gouttes, hein, ce n'est pas une chose occidentale. Si vous voulez, hein. Et c'est les impressionnistes qui, découvrant les images du monde flottant, se sont dit, mais finalement, on ne représente pas la pluie. Mais c'est intéressant, la pluie. Et voilà, donc ici, une image qui nous... dont le thème, finalement, c'est celui-là. Il y a peut-être encore d'autres choses que l'on peut dire dans une œuvre telle que celle-là.
C'est un arbre en haut à droite ?
En haut à droite.
Tout à fait. Un écusson, là ?
Ah oui, alors ça, c'est une sorte de cartouche.
Oui.
Vous parlez de ça, hein ?
Oui.
Hein ? Ouais. Alors, c'est une sorte de cartouche avec des sortes de nuées, à nouveau, hein, et sur lequel il y a des caractères. Je ne suis bien capable de vous dire ce que ça dit. Hein. C'est peut-être le titre de l'œuvre, avant qu'il soit là ou là, je ne sais pas. Vous voyez comment là, les cartouches sont...
Ils sont rouges.
Voilà, ils sont bien... Alors, il y en a deux rouges, et il y en a un qui est fait de ces nuées, c'est un cartouche carré. Hein. Donc là, vous voyez, ce sont des cartouches qui viennent créer une sorte de tache de couleur. Hein. Ce n'est pas simplement de l'écriture qui est flottante, c'est bien intégré dans des cartouches bien précisément placées. Hein. Ok ? Il y a une chose, je trouve, que vous n'avez pas du tout vue encore, qui va être un élément capital concernant ces œuvres, qu'on a vu dans La Geisha du départ, qu'on revoit là.
Il y a le mouvement des personnages, très marqué.
Oui. Vous voyez une chose qui me frappe concernant le format.
Ah oui, c'est toujours très
vertical. Exactement. Très en hauteur et très vertical. Hein. C'était encore plus sensible avec la Geisha de tout à l'heure. Vous avez remarqué, c'est une feuille de papier très verticale. Hein. Alors, encore une fois, ça, c'est pas du tout une chose occidentale. Vous trouverez bien des dessins occidentaux, mais si vous voulez, qui sont des croquis, ça. Une œuvre occidentale, elle est soit un peu haute, mais large, soit en largeur. Mais là, on a une espèce d'étroitesse verticale qui va aussi beaucoup, beaucoup influencer les artistes occidentaux. Est-ce qu'on peut ici, par exemple, me signaler quelques artistes occidentaux qui... au 19e siècle, par exemple, ont beaucoup travaillé ces formes verticales en référence à l'art japonais, par exemple. Dont un qui est originaire de la région, en plus. D'ici. c'est Vuillard. Vuillard. Vuillard est un artiste qui va faire... Eh bien, regardez les paravents du musée d'Orsay. Hein. Vuillard a fait des vues comme ça, très verticales, hein, en référence à la peinture japonaise. Donc, c'est formats très allongés, très en hauteur, hein, et pas... qui sont une chose, encore une fois, très singulière. Ça, c'est vraiment quelque chose de très typique de ces images du monde flottant. Hein. Voilà, donc ça, c'est le Hiroshige, hein, qui, avec Hokusai... Et l'autre grand nom, si vous voulez, hein, de la... Alors, il y en a un troisième, peut-être, qui est Utamaro, voilà. Voilà, c'est les trois, peut-être, les trois grands noms, hein, de ces images du monde flottant qu'il faut garder. Hein. Quand vous voyez le titre de cette œuvre, qu'est-ce que ça vous suggère?
Une série.
Voilà. C'est-à-dire que le titre de l'œuvre, c'est « 100 vues célèbres d'Edo ». Ça veut dire qu'il y en a 99 autres. Vous voyez qu'il y a effectivement cette idée sérielle. Hein. Donc cette idée qu'une œuvre, vous le disiez, suggérez un petit peu tout à l'heure en parlant de la femme avec le prunier qui peut-être était associée à l'origine à d'autres œuvres. Je vous ai peut-être bien écouté, peut-être bien que non, en gros. Hein. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu la même chose ici. C'est une œuvre qui vaut pour elle seule, mais aussi qui vaut dans la suite de 100 vues qu'a réalisé Hiroshige, à partir d'Edo. Hein. Donc cette idée sérielle, elle est vraiment importante et d'autant plus envisageable que c'est de la gravure, justement. Allez, on regarde une autre.
C'est une BD.
Pardon ?
C'est une BD.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi c'est intéressant ? Je trouve que c'est tout à fait bien vu. Alors, c'est une espèce d'histoire.
La femme de gauche, c'est elle qu'on retrouve dans l'image de droite.
Alors, oui. En fait, c'est sans doute la même image. C'est-à-dire que c'est deux plaques, si vous voulez, mais vous voyez que ça, même si c'est mal rabouté, le tapis, si vous voulez, il se retrouve, c'est... Et puis, le coin de la pièce, mais le paravent qu'il y a derrière, en fait, c'est une maison, mais c'est bel et bien deux cadres. Alors, c'est dû notamment au fait qu'on a des planches différentes. Hein. Mais, c'était très intéressant que vous parliez de BD. Pourquoi ? Oui. Et aux planches de bande dessinée où il y a un espace pour le texte, hein, oui. Mais encore, pourquoi c'est intéressant que vous disiez ça ?
Le format, il est différent.
Oui.
Deux images d'un livre.
Alors, ça c'est la première chose, c'est que c'est assez vraisemblablement, effectivement, des images d'un livre. Il y a beaucoup de productions de livres faites avec des gravures, hein, les unes derrière les autres. Hein. De toute façon, on vient de voir avec Hiroshige, que souvent ces œuvres font partie de séries. Alors chacune vaut pour elle-même, mais ensemble, ça marche aussi. Donc il y a ce côté série, livre, ensemble des estampes. Tout à fait, ça joue. Et puis si on pense au monde contemporain. Parce que nous vivons au 21e siècle. Hein.
Oui, mais il y a une bouche.
Pardon ?
Il y a un chandelier avec une bouche.
Ouais. Mais si on regarde cette œuvre qui date du 17e siècle, hein, par rapport à nous, si on pense au Japon du 21e, vous savez qu'il y a un phénomène capital au Japon aujourd'hui et qui envahit le monde entier, c'est les mangas. Vous avez entendu parler des mangas ?
Oui, c'est vrai.
Les mangas, c'est un phénomène universel, capital. Hein. Tous les jeunes savent que c'est des mangas. Hein. Alors, il y a des spécialistes de mangas. Les grandes publications de bande dessinée aujourd'hui dans le monde, c'est le Japon avec les mangas. Hein.
Et bien,
pardon ? Oui, on commence par la fin, ben comme tout.
Donc ça veut dire
voilà.
Ici, la première image, ce serait celle...
Alors, vraisemblablement, même si encore une fois c'est une seule et même scène, ouais. Mais sur deux pages, en quelque sorte, sur deux planches. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que cet art des mangas, qui est tellement important au Japon aujourd'hui, mais dans le monde entier, hein, vous savez qu'il y a des... Allez à Paris, vous verrez des magasins spéciaux uniquement pour des mangas. Hein. En parlant pas au Japon, bien. Cet art des mangas, qui a littéralement conquis la planète... Hein, en fait, c'est un art qui s'est d'autant plus développé au Japon que vous en voyez, il y a cinq siècles, l'origine. Vous voyez ? Les mangas, c'est pas un petit truc qui est arrivé au Japon au 21e siècle par hasard. C'est quelque chose qui a son origine loin dans la culture japonaise. Et c'est pour ça que c'est intéressant que vous disiez, tiens, c'est une bande dessinée. Parce qu'effectivement, les mangas sont en quelque sorte la suite de ça.
Mais sur nos images d'Épinal ?
En quelque sorte. En quelque sorte. Je trouve que la comparaison est bonne, parce que les images d'Épinal, c'est aussi de l'estampe, c'est aussi la bande dessinée, etc. Donc, on voit là qu'on a, je dirais, un art actuel, mais qui s'enracine. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? J'ai oublié de vous...
Elles sont tristes, les petites dames, et puis il y en a une qui est consolée par le monsieur.
Oui. Parce qu'il y a un monsieur, on est bien d'accord. Hein ?
Oui, ben oui.
Hein, on a tous vu. Hein ? Ça, c'est un monsieur, et ça, c'est les petites dames. Hein ? Mais encore...
Il y a le thé.
Oui. Donc cette scène, c'est une scène qu'on pourrait qualifier de quoi ?
Il Covid bien jour, domestique.
Oui.
Non, on est chez les geishas.
Eh bien voilà, nous sommes chez les geishas. Là, vous n'êtes pas dans un intérieur japonais avec Madame Machin qui fait le thé pour Monsieur Machin et Madame Bidule qui vient voir sa copine. Hein. Vous êtes chez les geishas. Vous êtes dans un quartier réservé, hein, avec un monsieur qui vient voir ses dames. Hein, voilà. Donc c'est une scène, on dirait en Occident, c'est une scène galante. Hein. Nous sommes chez Watteau, sauf que nous sommes au Japon. Hein, voilà. Et donc, ce que vous voyez en fait, là, c'est un homme et deux courtisanes. Moro Nobu, qui est l'artiste qui a fait ça, est un des artistes parmi les plus précoces, hein, de cet art. Du monde, enfin de ces images du monde flottant, hein, c'est vraiment un de ceux qui, à partir de la première moitié du XVIIe siècle, a vraiment un peu posé les bases, si vous voulez, de cet art qui s'est tellement développé jusqu'au XIXe siècle avec Hokusai ou Hiroshige, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais on continue.
Une femme à l'étang.
Une femme à l'étang. Bien. Mais encore.
Il y a Mont Fuji,
là. Mettez bien vos lunettes orientales, hein. Enlevez vos lunettes occidentales.
Oui, il y a Mont Fuji.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Ils n'ont pas la même couleur de peau.
Oui.
Il y a la deuxième main qui titille le téton.
Oui.
Ça, c'est peut-être pas un enfant, en fait.
En tout cas, c'est un enfant un peu spécial. C'est un enfant un peu spécial. Donc, il y a effectivement une dimension érotique. Mais la dimension érotique, on l'a un petit peu vue juste avant, quand même. Alors, elle était pré-érotique. Là, elle est un peu plus marquée. Sauf que c'est quand même un enfant. Enfin, a priori. Enfant, c'est pas trop. Eh bien, alors, cette dame.
Elle est toute échevelée.
Oui ? Vous trouvez ça normal, vous ?
Eh bien, non.
Vous avez déjà vu des femmes au Japon en cheveux comme ça ?
Non.
Ben alors.
Pas apprêtée.
Eh voilà. Alors, c'est qui cette dame ?
Une nourrice ?
Une nourrice ? Alors, en l'occurrence, elle l'est, vous avez raison. C'est une nourrice du même genre que le geisha qu'on a vu avant.
Non.
Ah, ah ben non.
Elle n'est pas du même milieu.
Elle n'est pas du même milieu. Elle est quel milieu, celle-là ?
Simple.
Simple. Et pourquoi elle serait un milieu simple ?
Par rapport aux vêtements.
Par rapport aux vêtements, ben, on ne voit pas grand-chose du vêtement.
La coiffure, elle n'est pas coiffée.
Elle n'est pas coiffée. Alors, ça, évidemment, ce côté... Oui, ce côté pas coiffé, c'est une femme en cheveux, comme on disait autrefois. Hein. C'est un côté... ouais, c'est un peu spécial, ça. Hein. Alors, soit c'est effectivement une femme... j'allais dire des basses classes de la société qui n'a pas les moyens de se faire coiffer comme une geisha. C'est vrai que les geishas, il y a de l'argent là-dedans. Hein. Se faire coiffer comme on a vu tout à l'heure, ça demande des heures, ça coûte très cher. Enfin, bon, voilà. Hein. Donc tout le monde, les paysannes de Hokusai tout à l'heure, ils ne pouvaient pas se payer ça. Hein. Donc c'est peut-être une paysanne qui allait de son gamin. Hein. Puis puisqu'il va beaucoup dehors, il prend beaucoup de soleil, il a une drôle couleur de peau. Hein.
Il regarde ailleurs.
Il regarde ailleurs. Mais il y a peut-être une autre solution, une autre possibilité, qui fait que cette femme en cheveux est justement en cheveux.
Se réveille.
Se réveille ? Ah oui, il se réveille. Ah, mais une geisha qui se réveille serait parfaite. Hein. Oui, en plus, oui. Donc il y a une solution, il y a une autre solution. Soit c'est une femme des basses classes de la société, elle n'a pas les moyens de se faire une belle coiffure, soit... Ah, ouais. Soit c'est un personnage bizarre, spécial.
C'est encore un
c'est pas une femme.
Ben, quelque chose effectivement qui appartient au domaine des contes, de la légende, du surnaturel. Ouais. En fait, c'est une sorcière. C'est même la sorcière des montagnes. Je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup de sorcières, mais en général, elles n'ont pas la tête des geishas, les sorcières. Hein. Elles sont très spéciales. Elles ont des drôles de têtes. Hein. Une sorcière n'est pas tiffée comme une belle geisha. Hein. Une sorcière, elle est spéciale. Et bien là, c'est une sorcière. C'est une sorcière assez spéciale parce que cette sorcière-là, qui appartient effectivement au monde des légendes japonaises, hein, elle s'appelle Yama Uba, sorcière des montagnes. Et en fait, elle attirait les voyageurs en s'attifant un peu mieux, vous la voyez là. Une fois qu'elle les avait attirés, elle les dévorait. Voilà. Bon, vous savez, ça fait partie de ces vieux thèmes des contes qu'on voit dans toutes les cultures, mais qui au Japon existent. Hein. Donc c'est une femme absolument épouvantable, hein, une ogresse, si vous voulez. Sauf qu'un jour, elle a recueilli un petit garçon qui s'appelle Kintaro, et qui était un peu rejeté par tout le monde, parce qu'il était bizarre, il n'était pas comme tout le monde. Quoi, hein. Il avait une drôle de couleur de peau, etc. Et finalement, elle l'a élevé, et c'est devenu une sorte de personnage un peu surnaturel lui-même, doué d'une force extraordinaire, une sorte de sympathique simplet, hyper puissant, si vous voulez, omnipotent. Hein. Et qui est d'ailleurs, ce Kintaro, fait partie des, comment dire, des personnages un peu fétiches de la culture japonaise, qui en a beaucoup. Hein. Dans la culture japonaise, Kintaro est un personnage qui est un peu une figure emblématique, idéale, parfaite. Un petit gosse un peu mal foutu, mal formé, différent, mais qui est en fait une sorte de talisman. Ça, c'est Kintaro. Et Kintaro, il a été élevé par Yama Uba, c'est-à-dire la sorcière des montagnes. Donc vous voyez que ça, c'est encore un autre domaine du répertoire de ces images du monde flottant, c'est-à-dire celui des contes, des légendes et des figures surnaturelles. Bon. Là, qu'est-ce que vous voyez ?
Il y en a un qui porte sur
le dos. Ouais. Et alors, en termes de répertoire, qu'est-ce que ça vous dit, ça ?
L'usage, la vie.
Voilà. Alors, ça vous rappelle quelle œuvre tout à l'heure, ça ?
Là où il y avait les paysans.
Voilà. Qui est une œuvre de ?
Hokusai.
On se souvient de ce nom-là, hein, c'est important. Hein. Une œuvre de Hokusai. Eh bien, voilà une autre œuvre de lui. Je crois, à moins que ce soit de Hiroshige, je ne sais plus. Là. Mais en tout cas, une œuvre qui effectivement participe de la même idée, hein, c'est-à-dire une idée qui est de montrer le petit peuple. Hein. Parce que là, on n'a pas du tout affaire aux geisha ou aux calligraphes de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez aussi comme moyen esthétique qu'on a pu déjà apercevoir tout à l'heure ?
Il y a deux plans.
Oui, les plans, et qui sont rendus notamment par quoi ?
Les couleurs.
Oui, c'est ça. Et précisément...
Elle est absente.
C'est un peu en ombre.
Voilà, c'est ça. C'est des couleurs, mais qui sont en un plat, hein, en ombre. Hein, hein. C'est-à-dire que vous voyez à l'arrière, mais le théâtre d'ombre est aussi une chose japonaise. Hein,
bien, bien la lune ou le soleil ?
Pardon ?
La lune ou le soleil ?
Ben, difficile de dire. Donc, et là, vous voyez des choses qu'on a vues tout à l'heure, la place de l'écriture, hein, à l'intérieur de l'œuvre, hein, qui n'est pas là pour la concurrencer, mais qui en fait partie, des tampons qui ont pu être apposés pour les raisons qu'on a déjà dites. Et donc ce répertoire, on va dire, quotidien, qui est ici montré, c'est du Hiroshige, hein, que l'on a déjà vu. Hein. Donc vous voyez, cette dimension un peu ethnographique, ethnique, est une dimension de la culture japonaise des imams du monde flottant. Mais là.
Pourquoi
il y a si souvent des ponts représentés ?
Des
ponts.
c'est vrai
que... Ah, ben parce qu'il y a beaucoup d'eau, tout simplement. Ouais, et donc, moi, ça m'a frappé en allant au Japon à plusieurs reprises, hein, le fait qu'il y a effectivement des... Notamment, alors, aussi dans la campagne que dans les jardins, hein, où les jardins, c'est très beau, sont une espèce de souvent de condensé du paysage japonais. C'est-à-dire qu'on a des fois dans des jardins qui ne sont pas plus grands que cette salle, des tas de ponts, des quantités de petites installations. Et le pont fait partie de cette espèce de vocabulaire que l'on voit effectivement dans la campagne japonaise. En plus, ces ponts sont souvent reconstruits, ils sont souvent faits avec des matériaux de base, et ils sont souvent portés par des crues. Et puis aussi, vous savez, des typhons, etc. Donc, la dernière fois que je suis allé au Japon, il y avait eu, dans une ville du sud du Japon, j'y suis allé pendant un typhon, et alors moi je m'alarmais quand même, ils ont dit non, il y en a souvent comme ça. Ils m'ont dit bah oui, là c'est le cinquième de l'année. D'accord, puis je n'ai pas plus que ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a aussi, vous voyez, ce côté pont qu'on construit, qu'on reconstruit, qu'on reconstruit et qu'on refait toujours. Donc il y a beaucoup de ces petites installations faites en matériaux de base, vous voyez ce que je veux dire, qui comme ça séquencent le paysage. Et effectivement, vous avez raison, on les voit beaucoup, beaucoup, c'est très présenté dans cet art des images du monde flottant. Mais ça...
C'est pas un acteur de théâtre, non?
C'est absolument. Hein. D'ailleurs, le personnage que vous voyez là...
Qui représente un guerrier.
Voilà. Le personnage que vous avez là, c'est un personnage dont on pourrait penser, a priori, que c'est un guerrier, mais c'est pas ça. C'est un acteur dans le rôle d'un guerrier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'est-ce qui vous montre que c'est un acteur? Si on ne vous avait pas dit de la pluie, c'est un acteur, qu'est-ce qui vous aurait fait dire que c'était un acteur?
Il y a un maquillage aux yeux.
Oui. Et puis
il n'y a pas de protection, de casque.
Oh, alors, c'est vrai que on voit souvent des samouraïs avec des armures. Hein. Ouais. Il y avait une exposition au musée de Nantes, vous l'avez sûrement vu il n'y a pas longtemps, hein, sur les armures de samouraïs. J'espère que vous l'avez vu, hein, ça valait vraiment la peine. Hein. Voilà, très beau, hein, c'était à deux pas. Hein. Mais il y a aussi des guerriers qui n'ont pas d'armure, hein, qui font la loyale, si j'ose dire. Hein. Donc ce n'est pas le seul élément. D'ailleurs, vous voyez, il joue un guerrier, il n'a pas d'armure.
Il a quand même un sabre.
Il a un sabre.
Oui, mais c'est un guerrier logique.
Hein?
Si c'est un guerrier, c'est logique qu'il ait une arme.
Ah oui, vaut mieux. C'est même recommandé.
Oui, oui.
Non, mais il y a peut-être quelque chose qui vous montre qu'on est là devant un acteur.
Oui, le maquillage du visage.
Alors, le maquillage du visage.
Oui. La coiffure.
Oui. Ouf. Et moi, j'irais surtout l'expression. Vous avez vu, d'abord...
Il louche.
Alors bon, on a le droit de loucher, et que ce ne soit pas une expression. Hein. Enfin, là, en l'occurrence, il a une espèce de regard farouche et louchant. Vous avez vu la bouche, hein, le bout qui... Voilà, donc il a une espèce de rictus qui est celui du théâtre no, du théâtre kabuki. Hein. Lorsqu'on va au théâtre no ou kabuki, les acteurs font des mimiques, j'allais dire caricaturales, poussées, outrées, pour que ce soit d'autant plus visible. Vous voyez ? Parce que si vous jouez un guerrier comme ça, impassible, ça ne va pas aller. Le guerrier doit être... hein, donc il doit avoir une allure farouche, à la fois dans sa manière d'être, mais aussi dans les mimiques qui sont celles de son visage. Hein. Et c'est bien ça qui fait, je dirais, l'art de l'acteur. Hein. Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est une œuvre qui montre un portrait. Vous vous rappelez du portrait du calligraphe de tout à l'heure, hein? Ben là, à nouveau, c'est un portrait, le portrait d'un acteur célèbre. Hein? Parce que, autant il y a des geishas qui sont très célèbres et qui ont leur portrait, mais il y a aussi des acteurs qui sont tellement célèbres qu'ils ont leur portrait. Hein? C'est pas une chose qui date d'aujourd'hui, le magazine People. Hein? Voilà un exemple, là, au Japon, au 19e siècle, enfin, fin 18e en l'occurrence, d'un portrait d'un acteur célèbre. Une geisha, voilà. Voilà, alors, c'est figure. On retrouve ce qu'on a déjà dit, hein, le format très vertical, très longiforme, hein, les écritures qui rentrent dans l'œuvre, avec éventuellement toute une série de tampons qui viennent confirmer la légalité de l'œuvre. Hein. Une geisha, avec ses vêtements, cette coiffure. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à la main?
Alors,
ça pourrait être un pinceau, ça peut être autre chose aussi.
C'est vrai qu'elle est graphique.
Alors, pardon.
De la calligraphie.
Alors, c'est pas. En fait, ça pourrait être un pinceau de calligraphe, mais c'est pas ça, c'est autre chose.
Maquillage.
Elle fume. Hein. C'est une pipe.
Ah, c'est une pipe.
Alors, vous n'en voyez pas le fourneau qui est coupé par le côté de l'œuvre. Les cadres des œuvres japonaises sont quelquefois comme ça. On a vu tout à l'heure le prunier, vous savez, avec le
bout d'arbre.
Voilà, au Japon, c'est pas du tout un problème, ça. Hein. Donc là, la pipe, on voit pas le bout, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, tout ça correspond maintenant à ce qu'on a déjà beaucoup vu, à une geisha, etc. Elle fait quoi, à part qu'elle fume ?
Elle regarde quelque chose
partout. Oui. Pour vous dire ce que ça représente, je vais vous passer le cartel. Ça s'appelle « Amour profondément caché ». Alors, je ne sais pas si c'est marqué là ou c'est marqué là, mais c'est le titre de l'œuvre. Bien. « Amour profondément caché ». Qu'est-ce que ça vous suggère ? Ça ne vous suggère pas grand-chose. Marqué, ça n'a rien à suggérer, effectivement, parce que c'est rien d'autre que ça. C'est-à-dire que, tout comme tout à l'heure, on voyait une femme qui regardait les fleurs d'un prunier, là, l'idée, c'est d'explorer les tréfonds de l'âme humaine pour aller trouver comment ils peuvent être représentés sur la face de quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, ces artistes, les images du monde flottant, vont à travers ces milliers d'images représentant des geishas, des femmes, essayer de, alors quelquefois des hommes aussi, hein, de trouver en image, les sentiments intérieurs. Donc là, l'idée est de montrer en image cette idée d'un amour profondément caché. Alors je pourrais vous en passer des centaines d'autres, où on verrait des femmes dans toutes sortes d'attitudes. L'idée est d'essayer de toucher au plus près, en image, le sentiment qui est dit par le titre. Ok ?
C'est pas évident.
Ah non ! Mais d'autant moins que c'est pas notre culture. Hein. C'est vraiment pas. On aurait une manière de le faire, mais encore une fois, à travers des artistes qui sont un peu des équivalents. Je vous parlais à dessin de Watteau tout à l'heure. Hein. Voilà. Ben, c'est d'ailleurs finalement le même siècle, sinon tout à fait la même période. Watteau, c'est le début du 18e, ça c'est la fin. Hein. Mais Watteau, on a un peu ça. Hein. Chez Watteau, on n'a pas de contrairement à ce qu'on pense parfois, des scènes galantes un peu épaisses, hein, mais au contraire, des scènes. Qui, quand on les regarde bien, évoque des tas de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, ce tableau qui est au Louvre, qui s'appelle Les Deux Sœurs. On voit une femme de dos et une femme de face avec son galant. Hein. Ben, c'est une œuvre qui peut dire, oui, ça représente une femme avec son petit copain, puis l'autre qui regarde. Mais c'est aussi une œuvre qui, si on regarde bien, dit beaucoup d'autres choses, et dans laquelle Watteau voulait montrer ça. Vous voulez montrer peut-être la jalousie de la sœur qui est seule par rapport à celle qui ne l'est pas, etc. Vous voyez, hein. Eh bien, on a un peu cette espèce de subtilité, de l'évocation, de la suggestion là-dedans. Vous voyez ? Si on arrive avec ton gros savon, on dit « Ouais, j'ai envie d'une femme avec sa pipe. » Ben, il faut aller plus loin. Il faut essayer d'aller l'art, c'est ça. Hein. C'est comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et voir que derrière cette représentation d'une femme avec sa pipe, il y a quelque chose qui est suggéré. Qui n'est pas dit, mais qui est suggéré. Vous voyez ? C'est donc, si vous voulez, un art de la subtilité, en fait.
C'est
enfantin,
non, c'est pas.
Oui, hein, oui. Qu'est-ce qui se passe en fait?
C'est des animaux.
Oui.
Ouais, c'est des chats.
C'est des chats. Hein, qu'est-ce que vous voyez en haut, par exemple? En bas, on voit peut-être moins bien, mais en haut.
Bah, ils se baignent. Ils
se baignent.
Oui, puis là, ils font la toilette.
Voilà, là, il y a des chats qui sont en train de faire leur toilette. Là, il y a des chats qui sont en train de se baigner.
Ils sont habillés en dessous.
Là, il y a des chats qui sont habillés en dessous. Alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, finalement ?
Une allégorie.
Ouais, mais encore.
Celle de la vie quotidienne.
Oui, mais vous voyez beaucoup de chats qui se baignent. dans un... Voilà, voilà, en plus. Ouais. Autrement dit...
Bah, ça représente des humains, mais ils sont sous forme de chats.
C'est ça. C'est-à-dire c'est une scène où les chats, les animaux, prennent la place des humains. Hein. On pourrait qualifier ça de quoi ? Pardon ?
Une satire.
Voilà, une sorte de scène satirique. Hein. On a bien connu ça en Occident. Hein. Quelqu'un comme David Teniers, par exemple, on en a parlé sous d'autres cieux. Hein.
Avec
des singes, avec des chats aussi. Hein. Souvent, il y a même, je pense, à un tableau qui s'appelle le chat par biais des singes, ou plutôt les singes par biais des chats. Enfin, il a fait les deux, d'ailleurs. Hein. Voilà. Parce que les chats et les singes sont censés ne pas s'entendre du tout. Bref. Mais là, évidemment, c'est une sorte d'image satirique, hein, où on voit, en fait, c'est un onsen, c'est-à-dire un établissement de bain. Hein, mais au lieu de voir les Japonais, ils sont remplacés par des chats. C'est donc une manière de satire. Voilà un autre domaine de, on dirait, de ce répertoire des images du monde flottant, qui est celui de la satire. Alors, on va continuer en voyant encore une dizaine de choses. Je vais aller un petit peu plus vite, mais simplement pour qu'on se mettre bien dans le courant, je dirais, de ce répertoire-là. Qu'est-ce que vous voyez ?
Une scène de un chat, une scène de rue.
Oui.
Un monsieur qui ouais. est sur
Oui.
Il y a un porteur.
Voilà. Alors, il y en a même deux. Hein. Ouais. Là, vous voyez deux personnages qui portent une sorte de chaise à porteur. Ouais. Et derrière, vous voyez une mule, sans doute, hein, qui est tirée par des gens et avec un personnage dessus. Hein. Ouais. Par parenthèse, ça me rappelle un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les gens qui passaient le pont, là.
Oui,
il y a beaucoup de scènes qui représentent des allées et des venues. Hein. Il y a beaucoup de ces scènes campagnardes où
on voit...
Et puis
des ombres.
Oui, alors voilà, regardez en fond, vous connaissez. Hein, regardez là les ombres hein, qui apparaissent, hein, les lanternes aussi. Bref, vous voyez, effectivement, des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure. Hein. Voilà, ça c'est aussi de Hiroshige, comme ce qu'on a vu plus tôt. Là. Voilà, hein, maintenant vous commencez à voir ce genre de... Voilà, hein. Donc on est là dans un intérieur élégant. Hein. D'ailleurs, ça fait partie d'une suite d'intérieurs élégants. Il y en a comme ça 8, je crois, de Harunobu, et qui, effectivement, représente une geisha avec son client. Hein. Voilà. Ça...
Ah, c'est des petites planches de dessins, oui.
C'est ça. Ça, c'est un carnet, il me semble que c'est de Hokusai, et qui représente, vous voyez, des quantités de petites... voilà un de ces carnets dont on parlait tout à l'heure, hein, et qui, encore une fois, anticipe sur l'art des mangas. On est là, vraiment, dans une vue du 19e siècle, mais qui montre une sorte de continuité, si vous voulez. Hein. Donc vous voyez que là, il a, dans cette gravure, hein, mais à partir de dessins... C'est toute une série de petits personnages que l'on a pu voir dans ses gravures à lui ou dans les gravures de Hiroshige. Hein. Ben voilà. Hein. Alors là, c'est trois geishas très très célèbres. Hein. Voilà. D'ailleurs, l'œuvre s'appelle « Trois beautés de notre temps hein. ». Voilà. Vous voyez, c'est Stéphanie de Monaco et consorts, si vous voulez. Hein. Voilà. Puisque c'est une recueil qui est de beauté de notre temps, on est d'accord. Hein. Et voilà, donc vous les voyez là, qui sont présentés. Hein. Hein.
Des acteurs.
Donc voilà, vous commencez à rentrer dans le jeu, vous voyez quels sont les éléments de ce répertoire. On a là deux acteurs. Vous voyez celui du haut avec sa mimique qu'on retrouvait déjà dans une autre œuvre de Sharaku tout à l'heure, hein. L'acteur guerrier. Hein. Voilà. Ah.
Les jambes.
Oui.
C'est un monsieur qui s'active.
Voilà. Vous savez, en Occident, nous qui avons quelquefois la vision un peu courte, quand on parle d'estampes japonaises, on pense d'abord à ça.
Oui.
C'est-à-dire à l'art érotique. Alors, on est entre gens bien élevés et je n'avais pas dévoilé le carré blanc, hein, donc je montre là une scène érotique très soft. Hein. Mais vous voyez quand même une dame nue, couchée dans une barque, et un monsieur par-dessus qui s'active. Voilà. Hein. Alors là, on est dans quelque chose de très très soft, d'autant que vous voyez qu'il y a une sorte de grand filet qui est là, hein, et qui masque un peu, c'est un pêcheur, et qui masque un peu la chose. Hein. Mais j'aurais pu vous montrer des scènes bien plus audacieuses. Hein. Quelquefois d'ailleurs avec des femmes entre elles, des hommes entre elles, des femmes, des hommes, les deux, des pieuvres également. Souvent les pieuvres ont parfois un grand rôle dans ces scènes érotiques. Hein. Et je passe sur les détails. Hein. Mais l'art érotique dont on a vu quelques prémices. Hein. Vous vous rappelez de l'intérieur élégant que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Vous vous rappelez de la sorcière des montagnes, avec le petit garçon, qui n'est peut-être pas si garçon, petit garçon que ça, qui est en train de tâter le téton. Hein. Bon, on est allé dans des prémices bien gentillets, et d'ailleurs aussi, par rapport à des scènes beaucoup plus hardes pour parler français, que vous pourriez voir. Hein. Mais tous les artistes des images du monde flottant ont donné dans le genre érotique. Hein. C'est pas, si vous voulez, quelque chose de, comment vous dire, un peu à part, un peu qu'on ne demande pas trop, etc. C'est quelque chose qui fait partie de cet art des images du monde flottant et qui est également très souvent représenté. Voilà, là c'est à nouveau une geisha célèbre. Elle a droit, tout à l'heure on en avait trois, là elle est toute seule. Hein. Voilà, une geisha célèbre. Waran, c'est ça, c'est le nom de certains types de geishas, parce qu'il y a sept niveaux différents hein, chez les geishas. Il y a le niveau haut, bas, etc. Donc, et celle-là, c'est donc une geisha tout à fait célèbre. Vous voyez qu'elle a droit à son portrait.
J'ai hein. l'impression qu'elle est enceinte.
Oui, mais en fait, c'est le, comme dans les vierges du XIIIe siècle en France, hein, elles sont d'abord très cambrées, souvent le ventre est un peu proéminent. Ça fait partie. Et puis, il y a, souvent des éléments de vêtements hein, qui permettent cette espèce de bombement.
Encore une.
Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Pardon ?
Elle se lave.
Voilà, elle est en train de s'essuyer le visage. Hein. C'est un petit peu comme l'autre œuvre de Utamaro qu'on a vu tout à l'heure. On voyait une femme qui était en train d'avoir une pensée d'amour profonde, vous vous rappelez ?
Oui, oui.
Hein ? Là, c'est un peu pareil. Alors, on en sait avoir une femme qui s'essuie le visage. C'est un geste qui n'est rien, mais qui peut-être veut dire tout, vous voyez ? Donc, encore une fois, ça, c'est pas du tout occidental. Hein. Mais au Japon, ça, c'est très important. Un petit rien peut ouvrir sur des immensités. Hein. Ça, en Occident, alors, je trouve que c'est Proust, peut-être. Voilà.
C'est très moderne, je trouve. Très...
Oui, elle est moderne.
Absolument. Hein. Absolument. On est là dans des choses qui sont pour nous... On est au XVIIIe siècle. Et évidemment, pour nous, c'est pour ça d'ailleurs que les avant-gardes occidentales du 19e ont foncé là-dessus. Parce que c'était très très nouveau, très étonnant. Pour un œil occidental, académique, hein, l'art japonais est quelque chose, a été une révélation totale. Et vous avez raison, c'est tout à fait spécifique.
À la vague.
Vous connaissez. Hein. Ben voilà, une des icônes des images du monde flottant. Hein. Donc ça, vous la connaissez. Qu'est-ce qu'on voit dans le fond ? Le bon Fuji. En fait, ça fait partie, ça aussi, d'une série. Hein. Il y a 36 vues du Mont Fuji. Ben, c'en est une. La plus célèbre. Hein. Avec, on a toujours peur, hein, quand on voit ça, des pauvres petites barques qui sont ici ou là. Hein, avec les pauvres pêcheurs qui sont là, dont on se dit, bon, vivons que ça se calme. Hein. Voilà. Et vous rappelez tout à l'heure de la pluie, hein,
oui.
La question des éléments qui se démontent, du climat, etc., intéresse beaucoup les artistes des images du monde flottant. Hein. Ce n'est pas toujours un temps calme, si vous voulez. Hein. Il faut de la pluie, de la tempête. Tout ça fait partie du jeu. Hein.
Un canard. Sous la neige.
Oui. Ben, vous avez bien résumé. Hein. C'est une œuvre qui représente effectivement un canard. Et au premier plan... Il y a un roseau avec de la neige, et ça s'appelle Roseau sous la neige et Canard sauvage. Voilà. Hein. Donc vous voyez qu'une fois de plus, hein, nous qui passerions en côté de 4000 roseaux sous la neige sans même les regarder, hein, ben là, si, un roseau avec un peu de neige, c'est regardé, c'est considéré, c'est artistisé, vous voyez. Hein. C'est une des choses qui est très importante à retenir, c'est que là, un rien peut faire beaucoup de choses. Hein. Un roseau sur la neige, c'est déjà magnifique.
Mais les bouquets japonais.
Absolument, les ikebana, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que Gibana, il n'y a pas 300 fleurs qui roulent dans un vase, c'est deux fleurs, et puis voilà, qui créent une sorte de signe comme ça, et c'est bon. Voilà. C'est tout à fait un bon parallèle. Alors, il y a une geisha en bas et un monsieur en haut. C'est un monsieur là-haut. Hein, voilà. Alors, ils sont à côté d'un paravent. Et là, vous reconnaissez, comme d'habitude, hein, ces jeux de séduction. Hein. Si vous avez un couple, enfin, geisha, puis un monsieur qui vient la voir, hein, c'est toujours cette même idée. D'accord ? Vous voyez que ces jeux très subtils de séduction, etc., tout ça est très, à la fois très codé, et ça.
On dirait une caricature.
Oui.
Une geisha vieillissante.
Alors, il y a une autre solution.
C'est un homme.
Et eh ben voilà. C'est un homme qui joue une geisha. Et pourquoi?
Un acteur.
Et eh ben voilà. C'est un acteur. C'est pas que c'est un travesti. Enfin oui, c'en est un. Hein. D'ailleurs, il y avait des geishas travestis. C'est-à-dire des hommes travestis en geisha qui sauvaient des hommes. Hein. Ça, c'est fréquent aussi. Il y en a des gravures. Hein. C'est tout ça, ça existe. Hein. C'est pas un problème. Hein. Ben là, vous avez le cas aussi. C'est un acteur très célèbre hein, qui fait partie d'une dynastie d'acteurs. Lui, c'est numéro 2. Hein, et là, il représente la geisha Asaka. Hein, voilà. Donc, vous avez bien vu que c'était une drôle de geisha. Ben oui, c'est un monsieur qui joue le rôle d'une dame. Voilà. Vous savez que dans le théâtre nous, au Kabuki, les hommes jouent le rôle des femmes. Hein.
Ah oui.
Ça.
C'est un paysage.
Voilà, un paysage où il se passe quoi?
Il y a des gens qui
passent, comme on l'a vu tout à l'heure déjà. Ces allées et venues sont très souvent montrées. On voit dans le fond le Mont Fuji. Hein. Toujours un peu la même chose. Toujours ce répertoire-là. Hein. Ça fait partie d'une série. Les 36 vues du Mont Fuji, on en a vu une tout à l'heure. La vague. Hein. D'accord. Encore une ou deux, je crois. Et voilà. La dernière.
Des grues.
Des grues. Absolument. Je voulais vous la montrer, celle-là, parce que je trouve qu'elle est très, très prégnante. Vous voyez comment ces espèces d'éléments de végétation, là, j'allais dire, naviguent avec ce qui est en haut et ce qui est en bas. Hein. Une fois, on ne sait plus où sont les caractères, où sont les bambous, où sont les pattes des grues. Vous voyez cette espèce de communion, là, hein, qui intéresse beaucoup. Hein. Une fois, on pourrait dire, c'est rien, c'est quelques grues sur le bord d'un rivage, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Et bon, vous voyez qu'à partir de ce rien, encore une fois, on nous fait quelque chose de vraiment très artistique. Voilà. On peut résumer en 2 minutes avant de voir la dernière œuvre. Parce qu'il y a toujours une virgule finale. Si vous aviez en 2 secondes à résumer ce répertoire des images du monde flocon, vous diriez qu'il y a quoi? Ce répertoire que nous venons de voir, les sujets qui sont traités.
Il y a les portraits.
Il y a les portraits. Il y a les paysages. Il y a beaucoup de geishas.
Des animaux.
Des animaux.
Il y a peu de fleurs.
Alors souvent elles sont à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a très peu effectivement de ce qu'on appellerait des natures mortes. Hein. Il y en a, mais c'est pas majoritaire, c'est vrai. Il y a peut-être d'autres choses encore.
Celle de la vie paysanne.
Celle de la vie paysanne. Vous oubliez la sorcière.
Ah oui, les contes.
Les contes et légendes. Hein. Et puis.
Les acteurs.
Les acteurs. Qui font partie un peu des portraits d'ailleurs, mais quand même, c'est un domaine spécifique. Hein. Les scènes liées au théâtre, c'est effectivement vraiment un genre tellement développé qu'il est particulier. Il y a également toutes ces exemples satiriques dont on a vu un exemple, vous savez, avec les chats. Hein. Donc tout ça, ça vous donne une espèce de prisme à l'intérieur duquel hein, se développent ces images du monde flottant. Je voulais vous montrer une autre, une dernière.
Oh, c'est beau ça.
Un arbre.
Oui,
mais
ça, je sais.
Il y en a beaucoup d'arbres.
Hein. On va laisser.
C'est plein de cerisiers.
Pardon ?
Des cerisiers.
Un cerisier ?
Non, mais il y a un champ.
Il y a un champ.
Puis il y a des personnages aussi.
Oui,
jaune
et tout ça derrière la
papier en bleu,
là, voilà.
Ouais. Et c'est pas beaucoup plus contemporain,
ça. Ah, c'est plus tardif. Ça vous dit quelque chose?
Oui, la fête du cerisier.
Allez, je vais révéler.
Oui, c'est pas japonais.
Van Gogh.
Ah, Van Gogh.
Et voilà.
Il a copié Yoshide en voiture.
C'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez une œuvre de Van Gogh qui copie Hiroshige. Ça recoupe exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un disait tout à l'heure, oh là, c'est très moderne, là. Mais effectivement, c'est-à-dire que ces œuvres-là, ces images du monde flottant ont littéralement bouleversé beaucoup d'artistes en Occident dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Hein. Vous connaissez peut-être par exemple le portrait de Zola par Manet, portrait très célèbre, qui est au musée d'Orsay. On voit Manet assis dans son cabinet de travail, on voit Zola assis dans son cabinet de travail, peint par Manet, et derrière lui, il y a des choses sur le mur, dont une série d'estampes japonaises. du genre de ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que les intellectuels en France, par exemple, dans la deuxième moitié du 19e siècle, collectionnaient ces estampes qui valaient rien. Hein. C'était fait en des milliers d'exemplaires. Les Japonais en expédiaient beaucoup en Occident. Et, par exemple, Van Gogh en avait des quantités. Monet aussi.
À Giverny, il y en a.
Exactement.
À Giverny, dans la cuisine.
Absolument, tout à fait. Et vous savez, Monet a représenté notamment son fameux petit pont, qui est d'ailleurs un pont japonais. On parlait de pont tout à l'heure. Hein. Vous avez raison de parler de pont. Le pont, c'est un motif absolument important. On l'a vu, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. Vous l'avez identifié. Eh bien, si Monet a fait ses ponts japonais, c'est aussi, j'aurais pu vous faire le parallèle, hein, parce qu'il a repris ces images de Hiroshige ou de Hokusai représentant ces fameux ponts. Vous avez vu tout à l'heure à quel point ils étaient présents. Hein. Donc effectivement, on est là devant un art assez déroutant. On est encore dérouté aujourd'hui par les estampes japonaises, hein, qu'elles voient parce qu'elles montrent. Hein. Et encore, je ne vais pas montrer les plus rudes, hein, mais on a de sacrément osé. Hein. Mais encore aujourd'hui, les estampes japonaises ont un pouvoir sur les occidentaux, un pouvoir de sidération. C'est tellement loin de notre manière de voir, de regarder, de considérer les choses, nous qui sommes quand même très occidentalisés. Hein. Vraiment, c'est quelque chose de tellement différent, tellement autre, qu'on ne sait pas trop les regarder, qu'on ne les connaît pas, on ne les comprend pas. Hein. Et cette méconnaissance-là, elle était celle également du 19e siècle. Et ça a vraiment, littéralement, bouleversé enfin, les artistes du 19e siècle. Et quelqu'un comme Van Gogh fait ça, qui est la copie, en fait, hein, vraiment, hein, de l'œuvre de Hiroshige. Voilà de Hiroshige, l'estampe, hein, et voilà la copie faite par Van Gogh.
Et comment les Japonais nous voient-ils alors?
Bonne question. Je crois, vous savez, que finalement, c'est un petit peu la même chose en sens inverse que pour nous. C'est-à-dire que c'est ni mieux ni moins bien. Ni, voilà. Par exemple, les Japonais, nous, je pense, hein, mais je ne suis pas japonais, hein, même si je suis allé plusieurs fois au Japon, mais les Japonais, je crois, nous voient beaucoup à travers le 19e siècle, justement. Je pense que l'avant 19e siècle, les Japonais ont beaucoup de mal à le voir. Si, ils le voient par rapport à des grands lieux, Versailles, des choses comme ça. Hein. Mais, par exemple, le Moyen-Âge occidental, pour les Japonais, c'est pas très évident. Si, bien sûr, quand ils voient Notre-Dame de Paris brûler, ils se disent « Non, ben, c'est Notre-Dame de Paris ». Mais, comment dire, la perception... je crois, n'est pas vraiment... Ça ne percute pas, si vous voulez. Un peu comme nous, on a du mal à percuter avec l'art japonais. Vous voyez ce que je veux dire? On ne le connaît pas, c'est pas... Il faut vraiment rentrer dedans, vous voyez. C'est des choses qui sont peu montrées, finalement. Et je crois que les Japonais nous voient beaucoup à travers le 19e siècle. Pour les Japonais, la France, c'est l'impressionnisme. Ça, c'est clair. D'ailleurs, le Musée national d'art occidental à Tokyo, c'est un musée où il y a... Enfin, où il y avait. Mais il y a encore une grosse collection impressionniste, hein, qui a été en grande partie, avec la Deuxième Guerre mondiale, raptée par la France. Ça a été un dédommage de guerre, vous le savez. Beaucoup des grandes œuvres impressionnistes sont au musée d'Orsay, appartenaient à la collection Matsukata, qui est un japonais, qui a beaucoup, beaucoup collectionné d'œuvres impressionnistes. Et à la fin de la guerre, la France, ça fait partie des dédommages de guerre, hein, a prélevé des œuvres impressionnistes à Tokyo, et elles sont aujourd'hui au musée d'Orsay. Pas que des œuvres impressionnistes. Si vous allez au musée de Besançon, vous verrez les paysans de Flaget de Courbet, qui fait partie de la collection Matsukata, qui fait partie de ses œuvres ramenées du Japon vers la France après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que vous voyez, vraiment pour les Japonais, la France, c'est la deuxième moitié du 19e. Hein, voilà. Je ne dis pas que le reste ne compte pas, hein, mais c'est vraiment, il y a un immense goût pour ça. Hein. Peut-être justement parce qu'il y a eu une accointance à ce moment-là. C'est peut-être la partie la plus japonisante de l'art occidental. Finalement. Et ben voilà.
Merci.
Voilà, on aura terminé. Alors, ces séances, elles ont eu pour but non pas de tout voir des arts d'Extrême-Orient, hein, inutile de vous dire que nous n'avons fait qu'effleurer quelques éléments, mais j'ai préféré qu'on creuse un peu ici et là, dans 5 territoires différents, hein, des domaines pour... j'allais dire un peu maillé ici et là, ce regard sur l'Extrême-Orient. Il y aurait beaucoup de choses à dire.